Serafina, et Serafina qui vous est proposée par Marie-Noëlle Anderson, qui a écrit un magnifique livre, des portraits d'exilés sud-africains, couleurs d'exil, et vous êtes toujours dans Remue Ménage, Radio Zone 93.8, Onde Femmes. Marie-Noëlle, nous allons passer cette dernière partie d'émission à évoquer la lutte qu'ont continué à mener les exilés hors d'Afrique du Sud. Parce que comme on le disait tout à l'heure, ils peuvent s'installer n'importe où, c'est pas important. L'important, c'est de pouvoir continuer la lutte pour leur pays. Et qu'ils soient sortis parce qu'ils étaient menacés et que c'était l'unique choix de survie ou la possibilité de vivre normalement, ou qu'ils aient découvert en exil, comme vous le racontiez tout à l'heure, la nécessité de lutter, pris conscience de ce qui se passait dans leur pays, eh bien, en tout cas, les 13 personnes que vous avez interviewées évoquent chaque fois cette nécessité. Et qui, entre autres, fait qu'ils ont dans la tête, il faut que je me batte, et puis, il faut qu'on construise ce nouveau pays.
Tout à fait. Alors bon, pour se battre, il y a plusieurs moyens. Vous avez les artistes qui ont été très importants pendant longtemps, que ce soit les musiciens, les peintres, les écrivains, donc qui ont continué la lutte en dénonçant de leur façon à eux. Et il y a aussi tous les gens qui, par exemple, ont travaillé dans des organisations qui s'occupaient de récolter des fonds pour différents projets, notamment, par exemple, pour la défense des prisonniers, pour qu'ils puissent se payer des avocats. Pour les études aussi, pour payer des études, parce que vous savez qu'en Afrique du Sud, le système justement d'éducation bantou est ainsi fait que, là je vais vous donner juste quelques chiffres, l'État dépense 3000 rand pour un enfant blanc et 650 pour un enfant noir. Et les enfants noirs doivent financer leur école, donc même l'école primaire, hein, la petite école, eux-mêmes. Ils doivent avoir un uniforme qui est obligatoire, leurs livres et tout ça, c'est eux qui payent, alors que pour les Blancs, ce n'est pas le cas. Donc, même au niveau les plus élémentaires de l'école, les gens ont besoin d'argent. Et bien que sur place, il y ait beaucoup de solidarité, il y a aussi certains hommes d'affaires noirs qui ont réussi à se créer une bonne situation, qui ont créé des mouvements, des organisations pour donner de l'argent, justement, pour que d'autres enfants puissent étudier. Et aussi bien ici qu'en Angleterre aussi, il y a plusieurs organismes qui justement donnent de l'argent pour ce genre de cause. Et il y a aussi tout le travail de dénonciation et d'information, je dirais simplement de communication, de dire qu'est-ce qui se passe, voilà comment c'est vraiment, donc que ce soit par des publications, que ce soit par des vidéos. Il y a beaucoup de travail à faire dans la lutte.
Beaucoup des personnes que vous avez rencontrées ont entre autres créé des groupements, des associations, mouvements anti-apartheid dans les régions où ils se trouvaient pour simplement faire connaître ce qui se passait.
Tout à fait. Justement, je crois que l'information est fondamentale parce que il y a aussi eu, je pense, une espèce de saturation par rapport à la violence, je veux dire, de saturation ici, parce qu'on a tellement vu de films, de documentaires, à un moment donné, on dit, bon, c'est trop, on peut plus, on veut plus savoir. Donc, en fait, c'est important de continuer cette information à différents niveaux, simplement en dénonçant, en faisant des conférences pour dire, voilà, c'est pas fini, ça continue. Donc, il faut remobiliser. En ce moment, c'est ça qui est très important, je crois, parce que depuis que Nelson Mandela est sorti de prison, donc il y a bientôt 3 ans, la plupart des gens pensent que tout est sur la bonne voie et que ça va au fond bien se passer, alors que c'est vraiment pas du tout le cas. Comme je disais tout à l'heure, l'infrastructure est inexistante. Il faut, je crois, par année 174 000 logements nouveaux pour que les gens puissent vivre décemment, parce qu'il y a eu toute cette horreur de bidonville où les gens se font vraiment déporter, où on les met dans les bantoustans, ça devient des... Ils perdent donc leur citoyenneté sud-africaine. C'est diabolique d'inventer un système pareil. Bref, donc tous ces gens, s'ils ont envie de revenir en Afrique du Sud, ceux qui étaient exilés justement dans les frontline states, les pays limitrophes, ceux qui reviennent de l'extérieur, ça fait quand même plusieurs milliers. Donc il va y avoir besoin de beaucoup de maisons, de logements. Il va y avoir besoin aussi de redistribuer la richesse au niveau simplement déjà par exemple de la médecine, des hôpitaux. Ça c'est un grand problème aussi parce que vous avez un taux de suroccupation, par exemple un hôpital à Durban, un hôpital noir de 130%, alors que vous avez des hôpitaux blancs où il y a des lits vides. La même chose pour les médecins, je veux dire, il y a des statistiques, un médecin attendez, je vais vous dire ça tout de suite, un médecin pour 330 blancs contre un pour 12 000 noirs.
Alors, on dit aussi qu'il y a 15 enfants dans les écoles blanches et qu'il y en a 40 dans les écoles noires.
Voilà, exactement, donc c'est le même topo à tous les niveaux, il y a vraiment beaucoup à faire. Et je pense que c'est très important, vu l'efficacité des sanctions à l'époque, justement de cette mobilisation internationale qui a vraiment eu beaucoup d'effets réels, de recommencer cette mobilisation, donc cette prise de conscience que ce n'est pas fini. Et c'est ça que j'aimerais aussi faire passer comme message. Donc on a un rôle, même si c'est loin, c'est à des milliers de kilomètres, l'Afrique du Sud, d'accord, mais on a une solidarité, on a une co-responsabilité à exercer de façon active. Pas juste en faisant des beaux discours, mais enfin, il faut s'impliquer et parler, se rendre compte de ce qui se passe et continuer à donner un coup de main.
Entre autres, la première personne dont vous avez recueilli le témoignage, Pat Sefolosha, accuse très précisément d'ailleurs le monde occidental de continuer à favoriser l'apartheid, le système d'apartheid, et en disant de toute manière, c'est pas seulement contre 5 millions de blancs que les noirs doivent lutter, mais c'est contre le monde entier. Donc on est très sérieusement remis en cause nous aussi.
C'est ça, tout à fait. C'est ce principe de responsabilité totale, en fait, qui est important, et de solidarité. Je pense que le moment est vraiment passé. Je crois que cette année va être très importante dans ce choix, justement, que ce soit au niveau individuel ou au niveau politique, entre solidaire ou solitaire, avec T. Mmh. Et tous ces espèces de clivages, je veux dire, l'épuration ethnique, toutes ces choses-là, c'est tellement monstrueux. Je veux dire, c'est un espèce d'état qu'il va falloir dépasser pour vraiment entrer dans une solidarité authentique et partagée. Et je crois que c'est très important par rapport à toute cette population sud-africaine parce que nous, on est responsables aussi, mais il faut aussi voir vice-versa parce que je crois que l'Afrique du Sud peut être ou est un espèce de microcosme par rapport au monde, à notre planète. D'ailleurs, André Brink disait que c'était un laboratoire un peu. Parce que vous avez un peu le même, vous avez 5 millions de blancs contre 32 millions de non-blancs. Donc vous avez un peu une répartition monde industrialisé et tiers-monde. Et c'est peut-être utopique, mais enfin, je pense que c'est important de croire pour continuer la lutte. Si les choses peuvent bien se passer en Afrique du Sud, ça peut dégager une espèce de nouvelle énergie, justement, de nouvel équilibre et de nouvelle harmonie qui peut faire tache d'huile et se répandre un peu partout dans le monde entier pour influencer tous ces rapports difficiles que nous avons, justement, avec toute notre richesse et les autres. Donc c'est très important en ce moment ce qui se joue, c'est vraiment un quitte-ou-double.
Mais en même temps, de toute évidence, ce qui se passe aujourd'hui en Afrique du Sud, c'est ce qui pourrait se passer n'importe où dans le monde. C'est-à-dire qu'on a très certainement affaire aujourd'hui maintenant à un combat non pas seulement entre les Blancs et les Noirs, mais entre les gens qui veulent que les choses changent et vers quelque chose de mieux, d'une entente, d'une solidarité, ce qu'on pourrait appeler les forces progressistes. Et puis d'un autre côté, ceux qui tirent en arrière, les réactionnaires qui veulent protéger leurs privilèges. Et finalement, c'est un très lourd poids qui pèse sur les épaules de l'Afrique du Sud de croire qu'ils arriveront, eux, à surmonter ce que, semble-t-il, ailleurs dans le monde, personne ne surmonte.
Oui, mais ils ont quand même une histoire de 300 ans derrière eux d'oppression. Alors, avec un poids pareil, je crois qu'on a aussi la stimulation et la motivation de tout faire pour que ça change. Je veux dire, c'est pour ça que je dis que c'est un quitte-ou-double. Donc, ils jouent vraiment tout ce qu'ils peuvent jouer pour faire changer les choses.
Mais l'Afrique aurait une force particulière qui lui permettrait de surmonter cet obstacle.
Moi, j'en suis convaincue. Je crois que le continent africain est une source, a une richesse absolument fulgurante. Bon, d'ailleurs, son sous-sol déjà, au niveau strictement ressources minières, enfin de toutes sortes de minéraux, etc. Mais je crois que ce continent a une énergie particulière. Alors, il n'y a qu'à voir les gens. Je veux dire, vous voyez les films en Afrique du Sud, ils descendent dans la rue pour manifester. C'est toujours en chantant, en dansant. Donc il y a une espèce de confiance fondamentale dans la vie qui est primordiale. Et c'est ça, je crois, leur grand moteur. Et justement, je crois que c'est aussi les femmes ont été très, très importantes pour ça. Le son encore d'ailleurs, parce que rien qu'en Afrique du Sud, quand les hommes sont en prison, bon, les femmes le sont aussi, mais enfin souvent ce sont elles qui ont dû tout assumer, donc s'occuper des enfants, aller chercher l'argent pour acheter à manger et tout. Et leur rôle a été assez ingrat quand on imagine que ce sont souvent des gens qui font 6 heures de voyage par jour pour se rendre à leur travail. Donc 3 heures aller, 3 heures retour. Et qu'est-ce qu'ils vont faire dans leur travail? Ils s'occupent de petits enfants blancs, tandis que leurs enfants, ben, ils restent dans les townships, ils restent ailleurs, bien en dehors des villes blanches. Et c'est une sœur, une tante ou n'importe qui d'autre, une grand-mère qui s'occupe de ces enfants. Et souvent, elles n'ont pas elles-mêmes la possibilité de s'occuper de leurs enfants, alors qu'elles donnent tout ce qui est chaleur, douceur à ces enfants petits blancs.
Je peux peut-être lire dans ce sens-là le témoignage, enfin ce que dit une des personnes que vous avez interviewée, qui est Denise Goldberg, et qui dit « Je tiens à dire quelque chose d'important à propos des femmes. Albertina Sisulu, Caroline Motsoaledi, Winnie Mandela, ma femme, toutes les autres ne reçoivent pas assez d'honneur. Les hommes vont en prison, elles aussi. En plus, elles élèvent les enfants, font bouillir la marmite, ont leur travail politique. Nous considérons tout ça comme normal, c'est une erreur. On devrait leur ériger un monument. »
Tout à fait. Je trouve que c'est adorable qu'il le dise. C'est un homme merveilleux parce qu'il le dit très spontanément et avec un très grand cœur. Et un autre témoignage intéressant aussi est celui de Randolph Arendse, qui voit ça d'un point de vue psychologique aussi. Et il dit, tiens, alors tous ces petits-enfants blancs qui connaissent au fond tout ce qui est justement douceur et chaleur et les besoins premiers essentiels leur sont donnés par des femmes noires. Et le jour où ils vont à l'école, c'est terminé. Tout ce qui est noir, c'est mauvais. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une personne? Ensuite, on les envoie dans les townships faire la guerre. Je veux dire, c'est pas étonnant si ça donne des personnes un peu bizarres.
Toujours pour parler de ce retour dans cette Afrique du Sud telle qu'elle est aujourd'hui, avec tous ces enjeux tellement incroyables qu'il faut relever et qu'il faut réaliser, est-ce que vous avez senti dans les rencontres que vous avez eues, Marie-Noëlle Anderson, que certains exilés se disent « on n'y arrivera jamais, on est fatigué ». Comment dire, se dire la tâche est trop grande, on s'est déjà battu depuis tellement longtemps. Vous le disiez, c'était déjà le cas des générations qui ont précédé la révolte des jeunes de Soweto en 1976. Est-ce que aujourd'hui aussi tout n'est pas dans la main des jeunes qui restent, qui sont aujourd'hui en Afrique du Sud, et même les exilés seront peut-être pas ceux qui vont, ou bien cette génération-là ne vont pas être ceux qui vont reconstruire l'Afrique du Sud?
Bon, je crois qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que tout de suite, c'est pas possible. Justement, il y a en fait deux générations sur place qu'on appelle les générations perdues, les Lost Generations, qui en fait n'ont pas pu aller à l'école. Une grande partie d'entre eux n'ont pas pu aller à l'école pour ces situations de violence. Ce sont des gens qui n'ont pas de formation, qui n'ont rien à perdre. Et donc pour eux, ils n'ont pas non plus le respect de la vie, ni de la leur, ni de ceux des autres. Ils sont absolument prêts à tout. Alors là, on ne sait pas très bien ce que ça va donner, si la sagesse des anciens va être plus forte et qu'on arrivera à faire un passage quand même le meilleur possible. Mais c'est évident qu'il faudra que beaucoup de temps passe, parce que 300 ans d'oppression et de système aussi, vraiment diabolique, aussi monstrueux, est inscrit dans les gènes des gens. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement noir-blanc ou disons blanc-non-blanc. Je veux dire, même les blancs, entre eux, il y a les descendants des Anglais et il y a les descendants des Hollandais, donc les bourgs. Ils ne s'aiment pas du tout entre eux. Même dans la société non-blanche, vous avez les noirs, vous avez les métis, vous avez les indiens. Elles sont toujours des communautés bien distinctes. D'ailleurs, le gouvernement, je veux dire, a tout fait pour entretenir cela en créant des zones urbaines où seulement les noirs peuvent habiter, seulement les indiens peuvent habiter. Ça ne se mélange pas.
Mais est-ce que, alors justement, parce que c'est vrai que d'avoir été pour ces jeunes habitués à vivre dans une violence perpétuelle, est-ce qu'ils sauront un jour faire autre chose que d'être violents, s'adapter à une situation entre guillemets normale? C'est une des questions que pose une des personnes que vous avez rencontrées.
Tout à fait. Bon, la réponse, elle est inscrite, c'est l'avenir qui le dira. Je ne sais pas où, mais je crois qu'une chose est très 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 importante par rapport à ce que nous pouvons faire, c'est justement d'apporter une oreille, une écoute, parce que toujours avec cette histoire d'oppression si longue, forcément les gens, de façon générale, qu'ils soient violents ou pas, ont perdu leur confiance en eux-mêmes, leur foi en eux-mêmes, leur dignité, leur respect pour eux-mêmes. Donc, en plus pour leurs racines, évidemment, leurs traditions. Alors, beaucoup d'entre eux pensent que la seule solution, c'est de devenir des perroquets, enfin d'imiter notre société. Alors bon, évidemment, on sait que c'est pas du tout ça qui va être la réponse pour demain. Mais je pense que nous, ce que nous pouvons faire, c'est leur donner une écoute, parce que c'est clair que nous avons beaucoup à apprendre de leur société, de leur façon de fonctionner, d'être organisée, etc. Et je pense que si nous pouvons avoir une écoute pour eux, ça leur redonnera aussi confiance en eux. D'ailleurs, c'est ce que Steve Biko disait. Pour lui, c'était fondamental au niveau psychologique déjà que les gens soient de nouveau fiers d'eux-mêmes, voilà, confiants et à tenir debout tout seul. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, à partir de là, les aider à former des petites communautés de travail, des coopératives, etc. et ouvrir nos marchés pour eux. Une façon, pas le grand capitalisme évidemment, mais une façon humaine.
Et contrairement à ce que disait le père de, je ne me rappelle plus quelle personne qui parlait, c'est pas parce qu'on est tellement intelligent que le capitalisme a bien réussi chez nous, parce qu'il avait l'air de dire que si ça ne s'est pas développé chez les autres, c'est qu'ils sont trop bêtes. Eh bien, on souhaite pour eux qu'ils soient tellement bêtes que ça se développe pas trop chez eux,
absolument,
qu'ils découvrent autre chose.
Alors, où on a peut-être aussi un impact possible, c'est de nous manifester, enfin, de demander justement de les entendre avant que ce soit trop tard, avant qu'il y ait un grand désastre. Parce qu'il faut aussi dire qu'il y a toute une campagne de déstabilisation qui est en train d'être... ça fait déjà plusieurs années qu'elle est en train de se faire, enfin, organisée par le gouvernement. Simplement, ce sont des choses qui, petit à petit, maintenant se savent. Je veux dire, il y a eu la commission Goldstone, il y a plein de choses qu'on soupçonnait, qu'on savait sans le savoir, mais que tout le monde sait, c'est dans les journaux, je veux dire, on en parle. Et il y a des commissions d'enquête. Mais néanmoins, on ne sait pas ce qui continue à être tramé, organisé par derrière pour le jour où on ne pourra plus faire autrement que de finalement avoir ce gouvernement intérimaire, et c'est pour 94 en principe, et donc avoir un système démocratique où chacun pourra aller voter. Alors il faut que nous, en Occident, on fasse pression, on demande des garanties vraiment avant que la situation se détériore, parce que ben là, ce sera trop tard, quoi. Et souvent, quand on regarde ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, ben, on a attendu beaucoup trop longtemps.
Et l'Afrique du Sud est un pays très riche, naturellement, donc il doit faire beaucoup d'envieux, ça c'est sûr.
Tout à fait, c'est d'ailleurs le problème, parce que les enjeux sont tels, s'il y avait moins de richesses, les gens s'y intéresseraient moins, il y aurait moins d'argent en cause, toujours l'argent, malheureusement, et il n'y aurait pas eu tous ces problèmes, toute cette violence et toutes ces années d'apartheid, il n'y aurait pas eu ce système.
Peut-être pour conclure, Marie-Noëlle Andersen, est-ce que vous avez eu des nouvelles des personnes que vous avez rencontrées et est-ce que vous savez si certaines d'entre elles sont déjà rentrées en Afrique du Sud? Puisque au moment où vous avez mis sous presse votre livre, la plupart terminaient en disant « Bien sûr, le jour où on me laissera rentrer, où on donnera la possibilité aux exilés de rentrer, je me précipiterai ». Qu'en est-il aujourd'hui?
Oui, voilà. Alors, beaucoup d'entre eux se sont effectivement précipités, mais pour un peu humer l'air, et simplement pour voir comment était la situation vraiment, pas pour s'y établir tout de suite. Certains d'entre eux ont décidé que non, justement pour des questions d'enfants, etc., qu'ils n'allaient pas retourner, en tout cas pas pour le moment. D'autres ont entrepris encore des études pour avoir un bagage plus important à apporter, pour redistribuer, partager avec leurs compatriotes le jour où ils rentreront. Et certains sont effectivement rentrés. Alors là, j'ai eu un témoignage justement de Ouattara récemment, pour qui le retour est un choc, et surtout à cause de la violence. Bon, elle a la chance, elle est privilégiée, elle a un bon emploi, donc elle n'a pas de soucis matériels premiers. Mais la violence est terrible parce que, si vous voulez, il y a beaucoup de violences criminelles simples. Et toute la situation est tellement tendue qu'ici, elle s'était quand même habituée. Je veux dire, une femme seule se promène à toute heure du jour et de la nuit quand même assez tranquillement. Et là, même le jour, en voiture, il faut faire attention. Je crois que c'est très difficile. Et j'ai rencontré récemment la mère d'un des interviewés, de Charlie Bill, qui me disait, au fond, c'est que quand on est en vacances, par exemple en Suisse, qu'on se rend compte à quel point on est tendu quand on est sur place, parce que c'est vraiment, ça fait partie de tous les instants de chaque jour et on vit dans cette tension permanente, on ne sait jamais ce qui va nous arriver. Et c'est une fois qu'on sort, on se rend compte que ben tiens, il y a aussi d'autres façons de vivre. Et je crois que ça va être très difficile pour beaucoup d'exilés de rentrer.
Je vous remercie infiniment, Marie-Noëlle Andersen, en tout cas pour tous ces compléments à votre livre que j'encourage bien sûr nos auditrices et auditeurs à lire. Je rappelle le titre, c'est « Couleurs d'exil », couleurs au pluriel, publié aux éditions Canvas et éditions De l'Air. Mais encore une petite question, Marie-Noëlle. Est-ce que finalement, au cours de toutes ces rencontres, vous-même, vous avez retrouvé l'idée que vous étiez fait au début, c'est-à-dire l'idée de donner de la force à cet appel de vos racines. Et est-ce que finalement, après avoir écrit ce livre, vous sentez que vous avez pu réaliser ce que vous aviez envie de faire au départ?
Absolument. Donc bon, je pense que sur un plan collectif, c'est en train de se passer, et sur un plan personnel aussi, parce que j'ai l'intention de redescendre en Afrique du Sud cette année, d'aider à mettre sur pied justement plusieurs projets, plusieurs petites coopératives, et d'avoir un engagement très actif pour cette Afrique du Sud de demain que nous espérons vraiment belle, parce que c'est une corne d'abondance, ce pays.
En tout cas, on espère que vous viendrez nous en parler quand vous aurez pu participer déjà à certains de ces projets. Alors, vous nous avez choisi un dernier disque en conclusion de notre rencontre. C'est le groupe Maslatini.
Tout à fait. Donc, c'est de la musique des townships, enfin, un type de musique des townships très typique. Et le morceau que nous allons entendre s'appelle Zipi Ezekiti. Et ça veut dire « Où sont nos origines ?»
Was the best I get?
Je vous rappelle le livre que nous évoquions avec l'écrivaine Marie-Noëlle Andersen, Couleur d'exil, publié aux éditions Canva et éditions de l'Air, avec une préface écrite en juin 92 par André Brink. Voilà, aujourd'hui, Remue-Ménage, c'est terminé. Et pour terminer, je vous propose de laisser toute la force de la musique à une chanteuse que vous connaissez bien évidemment d'Afrique du Sud, qui est Myriam Makeba, et qui, dans une première chanson, rappelle que tous les pays avoisinant l'Afrique du Sud, eh bien, tout le monde ne pense qu'une chose, c'est que la lutte continue et qu'on arrivera enfin au pays dont nous rêvons tous. Myriam Makeba, à la semaine prochaine. Un petit problème technique, comme il nous en arrive régulièrement. Eh bien, je vous fais laisse encore le groupe précédent et puis je vous cherche quelle est la cause de la panne.
My people, my people, open your eyes and answer the call of the drum. Freddy Mo, Freddy Mo, summer.